Pascal. L'antagonisme de Descartes et de Pascal ne touche pas seulement les relations de la religion et de la philosophie, la conduite de l'homme dans la vie et devant la mort. Ce qui paraîtra plus surprenant, sans être de moindre importance, il s'étend à la façon de pratiquer les sciences où tous deux sont maîtres. Pascal s'est trouvé engagé par son père, Étienne Pascal, dans les voies que lui traçaient de grands mathématiciens. Desargues, Fermat, Roberval. Ému de Descartes, le commerce qu'ils ont entretenu avec lui, soit directement, soit par l'intermédiaire du père Mersenne, ne fut guère que de mauvaise humeur et de mauvaise volonté. Les chicanes de l'État y recouvrent un dissentiment profond, une divergence irréductible sur la fonction essentielle de la pensée. Avec la constitution de la méthode, Descartes se flattait d'avoir pénétré le secret de la mathématique universelle qui en découle par un processus de réduction analytique dont l'unité de l'intelligence humaine garantit la certitude et la fécondité. Pour Pascal, la suprématie de l'analyse est un préjugé. Dans les réflexions sur l'esprit géométrique, il ne mentionne pas l'algèbre parmi les disciplines qui composent le corps des mathématiques. Il va jusqu'à écrire « Trop de vérités nous étonnent. J'en sais qu'ils ne peuvent comprendre que qui de 0 au 4 reste 0. Ce qui donnerait à supposer qu'il n'y a pas d'autre nombre que les nombres positifs de l'arithmétique élémentaire. » En fait, à la vue stratégique qui prétend orienter d'avance les progrès et fixer les bornes de la recherche en mathématiques, la carrière de Pascal oppose la création successive de procédés tactiques qui sont spécifiquement adaptés à la nature propre de l'objet qu'on étudie et qui permettent d'en dégager les propriétés caractéristiques. Elles ne se laissent ni prévoir ni déduire. Elles surgissent tout d'un coup à l'appel du génie et commandent une branche nouvelle du savoir. Ce sont les propriétés de l'hexagramme mystique dans les travaux sur les sections coniques qui se rattachent à la géométrie projective de Desargues. Les propriétés du triangle arithmétique sur lesquelles reposent les travaux de combinatoire qui préludent à l'invention du calcul des probabilités, cultivées par Pascal concurremment avec Fermat. Les propriétés du triangle inassignable qui apportent le moyen de résoudre les problèmes de la roulette que Torricelli et Roberval avaient abordés. Dans chacune de ces occasions, l'on serait tenté de dire que Pascal prend à tâche de faire craquer les cadres du modèle préétabli par Descartes. Particulièrement significative est son attitude au lendemain de ses travaux sur la roulette. Tandis que Descartes se fait fort d'avoir frayé une voie directement accessible à quiconque est capable d'une attention soutenue, Pascal accepte que ses découvertes soient utilisées pour une sorte de défi lancé aux géomètres d'Europe. Notons en passant, et pour ne pas manquer la moralité de l'histoire, que si Blaise Pascal se sentait assuré d'être le seul qui pût vaincre les difficultés inhérentes aux pratiques de la géométrie infinitésimale, ces difficultés devaient être levées à la génération suivante, et cela par l'emploi de la méthode analytique qui est précisément celle de Descartes. S'il n'était pas arrivé à Pascal de partager la défiance d'Étienne Pascal et de son groupe à l'égard de l'algèbre, il lui était facile de conférer au triangle inassignable, par la création d'un symbolisme approprié, droit de cité dans l'univers intellectuel. Il n'eut sans doute pas abandonné à Leibniz et à Newton la gloire d'être les fondateurs du calcul différentiel. Le contraste des attitudes scientifiques, si frappant déjà dans le domaine des mathématiques, aboutit sur le terrain de la physique à une contradiction directe. C'est en 1646 que Pascal est informé de l'expérience barométrique de Torricelli et qu'il entreprend à son tour ses expériences sur le vide. Il s'engage ainsi dans la querelle séculaire qui mettait les adeptes de Démocrite et d'Épicure aux prises avec les disciples d'Aristote et des stoïciens pour le plus grand bénéfice jusque-là du doute académique. Or, 2 ans auparavant, dans les principes de la philosophie, Descartes s'est déclaré publiquement. Pour ce qui est du vide au sens que les philosophes prennent de ce mot, à savoir pour un espace où il n'y a point de substance, il est évident qu'il n'y a point d'espace en univers qui soit tel, parce que l'extension de l'espace ou du lieu intérieur n'est point différente de l'extension du corps. Et comme de cela, seul qu'un corps est étendu en longueur, largeur et profondeur, nous avons raison de conclure qu'il est une substance, à cause que nous concevons qu'il n'est pas possible que ce qui n'est rien est de l'extension. Nous devons conclure de même de l'espace qu'on suppose vide. À savoir que, puisqu'il y a en lui de l'extension, il y a nécessairement aussi de la substance. Plus loin, expliquant « Comment on peut corriger la fausse opinion dont on est préoccupé touchant le vide ?» il déclare « Si on nous demande ce qui arriverait, en cas que Dieu ôtât tout le corps qui est dans un vase, sans qu'il permît qu'il en rentrât d'autres, nous répondrons que les côtés de ce vase se trouveraient si proches qu'ils se toucheraient immédiatement. Car il faut que 2 corps s'entretouchent lorsqu'il n'y a rien entre 2, parce qu'il y aurait de la contradiction que ces 2 corps fussent éloignés, c'est-à-dire qu'il y eut de la distance de l'un à l'autre, et que néanmoins cette distance ne fût rien. car la distance est une propriété de l'étendue qui ne saurait subsister sans quelque chose d'étendu. On ne saurait être plus péremptoire, mais on ne saurait exposer de façon plus téméraire non seulement la structure dogmatique d'un système du monde, mais jusqu'aux conditions dans lesquelles s'établit le contact entre l'esprit de l'homme et la réalité de la nature. Si en effet il n'advenait que l'expérience, telle que Pascal la met en œuvre à la suite de Galilée et de Torricelli, fournit des preuves décisives en faveur de l'hypothèse du vide, et c'est de quoi Pascal serait persuadé, ne serait-on pas amené à dire que la ligne de partage qui marque l'avènement de la civilisation moderne, scolastique d'un côté, vérité de l'autre, laisse derrière elle Descartes suspect à son tour d'avoir été préoccupé par son préjugé touchant le plein, d'avoir péché par suite contre ce propre précepte d'éviter prévention et précipitation? Ce n'est pas que Descartes néglige ou dédaigne l'expérience. Il s'y réfère pour introduire, sinon pour légitimer, les idées maîtresses de sa physique. Dans le jeu de la fronde est manifeste l'action du principe d'inertie. Le tournoiement des brins de paille emportés par le courant suggère l'intuition des tourbillons, pressentiment curieux de l'association entre onde et corpuscule. Mais le rôle de l'expérience chez Descartes se borne à énoncer le problème dont on est certain à l'avance qu'il sera résolu par la raison selon ses normes propres, indépendantes des données et des surprises de l'observation. Bref, le mécanisme aura le dernier mot parce qu'il a déjà eu le premier. La nature, en suivant les lois de la mécanique, obéit à la raison humaine qui elle-même se prévaut des perfections infinies de Dieu qu'elle découvre dans l'évidence d'une entière intelligibilité. Or, Pascal, dès le début de ses recherches, réclame une intervention radicale dans la hiérarchie des facteurs de vérité. Les prétentions de la raison doivent s'effacer devant les enseignements d'une expérience qui a revêtu maintenant un aspect nouveau. Elle ne se réduit plus à l'enregistrement passif des faits recueillis de toutes parts et qui, comme Montaigne le remarquait, semble destiné à égarer l'esprit plutôt qu'à l'instruire. C'est l'investigation active, telle que Bacon la préconise, toujours à l'affût de procédés qui doivent être créés pour isoler méthodiquement, à travers la complexité en apparence inextricable des phénomènes, tel ou tel ordre de cause, et pour en mesurer l'effet avec une précision qui permette d'en déterminer la part exacte dans le cours de l'univers. Au lieu d'établir a priori les cadres immuables dans lesquels la connaissance scientifique, quel que soit le progrès futur des investigations, demeurait infailliblement enfermée, Pascal nous montre la physique en quête de ses principes, qui ne consisteront en rien d'autre que les expériences mêmes. Sans doute, Pascal concède à Descartes qu'il faut dire en gros « cela se fait par figure et mouvement ». Mais c'est le lieu de rappeler le mot de Montaigne. Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits. En fait, il est ridicule de chercher à pénétrer le détail et à composer la machine car cela est inutile et incertain et pénible. L'ambition fastueuse qui se traduit dès le titre des principes de la philosophie entraîne leur auteur à multiplier ce que nous appelons, suivant leur mérite, écrivait Pascal au Père Noël, tantôt vision, tantôt caprice, parfois fantaisie, quelquefois idée et tout au plus belle pensée. Mais tout cela sans attache avec la vérité du réel qui devrait être l'unique souci du savant. Et l'on se rappelle comment la contrariété des tempéraments, des méthodes, des doctrines a éclaté dans les visites que Pascal reçut de Descartes en septembre 1647. Acceptant tous deux l'explication par la colonne d'air, telle que Torricelli l'avait formulée, les interlocuteurs se sépareront sur la matière subtile, imaginée tout exprès pour maintenir l'hypothèse du plein, et dont le jeune Pascal, dans son fort intérieur, ne peut se pencher d'être étonné qu'un illustre philosophe parle avec un grand sérieux. Pourtant, si la raison outrepasse son pouvoir lorsqu'elle prétend établir de sa propre autorité les lois de la nature, Pascal lui reconnaît une fonction essentielle, qui consiste à tirer les conséquences des principes auxquels les expériences nous ont conduits. Elle doit accomplir cette tâche sans céder à aucun parti pris sur la distribution des lumières et des ombres, sur le discernement du clair et de l'obscur, du distinct et du confus. Il répugne au sens commun, néanmoins, il est vrai qu'un petit filet d'eau tient un grand poids en équilibre, nécessairement vrai dès lors que les liqueurs pèsent suivant leur hauteur. Paradoxe sans doute, mais dont l'évidence expérimentale se substitue à l'évidence illusoire de la raison pure. Ainsi, pour consommer la défaite de ce que Pascal désigne comme esprit de géométrie, le paradoxe hydrostatique rejoint les paradoxes du calcul des indivisibles. Tout ce qui est incompréhensible n'est-ce pas d'être le nombre infini, un espace infini égal au fini. Montaigne avait été lui aussi frappé de l'étrangeté des propositions auxquelles on est amené par la considération de l'infini. Mais amateur, sinon ignorant, il en avait conclu que l'absolu de la logique se détruisait lui-même sans rien laisser subsister après soi, comme s'il n'y avait en effet d'autre partie à suivre que le dogmatisme ou le pyrrhonisme. Pour Pascal, les choses sont loin d'être aussi simples. Il n'y a point de géomètre qui se croit l'espace divisible à l'infini. On ne peut non plus l'être sans ce principe qu'être homme sans âme. Et néanmoins, il n'y en a point qui comprenne une division infinie. Pour s'assurer de cette vérité, force est donc de chercher un détour, de procéder par voie négative. Qu'y a-t-il de plus absurde que de prétendre qu'en divisant toujours un espace, on arrive enfin à une division telle qu'en la divisant en deux chacune des moitiés reste indivisible et sans aucune étendue, et qu'ainsi ces deux néants détendus fassent ensemble une étendue? Cette réfutation, à son tour, sera la contrepartie d'actes par lesquels l'esprit saisit immédiatement son objet, connaissance du cœur et de l'instinct, sur lesquels il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit double de l'autre.